pas que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'aviation est un secteur qui émet une quantité considérable de gaz à effet de serre. On dit 3%, c'est rien, mais en fait, si, c'est quelque chose qui est considérable. La question qui se pose, en réalité, elle est plus philosophique avant d'être économique. C'est est-ce que tous les moyens se valent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, imaginer des moyens qui soient plus proportionnés, plus conformes aux libertés individuelles? Et donc ça, c'est une question qui est plutôt philosophique. Et je pense qu'il faut se souvenir que si on lutte contre le changement climatique, ce n'est pas pour le plaisir d'appauvrir l'humanité, mais bien pour assurer à l'espèce humaine le plus haut niveau de prospérité possible. Et c'est la raison pour laquelle il faut préférer, là où c'est possible, chaque fois que c'est possible, les solutions les plus paisibles, les moins répressives, les solutions technologiques, chaque fois que c'est possible, et utiliser la répression, les restrictions, en cas de dernier recours. Le problème, c'est qu'on est loin d'avoir épuisé les moyens non restrictifs pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
CO2, les émissions qui sont, enfin, dans le réchauffement qui est produit en fait par l'avion, il se trouve qu'il y a des effets qu'on appelle des effets non CO2, qui sont très bien quantifiés maintenant par les scientifiques et qui aggravent ce bilan, ce réchauffement, en fait. On parle d'un facteur 3, en fait. Donc, il faut multiplier par 3 les émissions de CO2.
Donc, multiplier par 3 les 3%.
C'est un pourcentage, donc ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, effectivement, ces effets non CO2, pour expliquer un peu, parce que c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant pour les personnes qui nous écoutent, il s'agit en fait à la fois donc, d'autres gaz que le CO2, des oxydes d'azote, par exemple, des NOx, et également des traînées de condensation. Donc c'est de la vapeur d'eau qui se forme au passage de l'avion et qui ensuite va former des cirrus. Et tout ça, en fait, combiné, crée une espèce de matelas réchauffant, une couverture qui ne s'estompe pas tout de suite dans l'atmosphère, mais cependant qui s'estompe beaucoup plus vite que le CO2 lui-même. D'accord. Donc on a ici un levier, par exemple, si on arrêtait de faire voler les avions tout de suite, ce que je ne souhaite pas, mais on aurait un impact fort.
Mmh. Mais Mathilde, votre vote.
Effectivement, les quotas, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. On peut tout à fait les aménager, on peut réfléchir à la proposition. La question, c'est de savoir s'il y a des alternatives. Alors, il y en a des alternatives. On essaie depuis des années de compenser, de proposer différents programmes de compensation. On peut aussi penser à renforcer.
Qu'est-ce que vous entendez par compensation?
Alors, les compensations, c'est la possibilité de prendre l'avion, mais également ensuite de décider d'offrir une certaine somme d'argent à la lutte contre la déforestation.
Il y a des compagnies qui le proposent, d'ailleurs, quand on prend.
Voilà, mais on sait que c'est assez inefficace et pour l'instant, ça n'a absolument pas fait ses preuves. Donc, ça fait partie des propositions, cette proposition de quota, mais on peut tout à fait réfléchir à d'autres propositions, renforcer les écotaxes, et pourquoi pas également récompenser, donc récompenser les personnes qui sont davantage, qui ont davantage un comportement écologique et qui pourraient ensuite davantage profiter de l'avion, des sortes de
bonus-malus.
Il y a différentes possibilités, simplement là ici, c'est effectivement une proposition assez audacieuse, nouvelle, et qui pousse vraiment à la réflexion, pas seulement philosophique, mais juridique.
Et politique. Mais alors d'abord.
Malheureusement, détromper les
78%
de Français.
Je
crois que c'est possible. Malheureusement, ça n'est pas possible. L'avion à hydrogène, vous en parliez, qu'essaye de développer Airbus, mais il faut rappeler que son concurrent direct, Boeing, ne s'est pas du tout engagé dans cette voie.
Ils n'y croient pas.
N'y croient pas du tout, exactement. Mais Airbus le développerait pour 2035. Ensuite, il faut 15 ans pour renouveler la totalité des flottes. Ça nous mène en 2050. Or, le problème du changement climatique, et c'est dès maintenant, c'est aujourd'hui. En fait, on est déjà en train de manger le budget carbone qui nous permettrait de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc c'est ça le problème qui se pose, c'est qu'à court ou moyen terme, l'aviation telle qu'on la connaît, aussi fréquente et qui va très loin aussi, parce que l'avion à hydrogène ne permettrait pas de remplacer les longs courriers, elle n'existe pas, elle n'a pas d'alternative.
Ça dit pour des contraintes techniques qui sont aujourd'hui... l'électricité avec des véhicules aussi lourds que des avions, c'est quand même assez compliqué. Les e-carburants, ça coûte beaucoup trop cher. Les biocarburants, idem. Exactement. Donc l'aviation est un secteur qui est particulièrement difficile à décarboner, ça c'est vrai. Maintenant, faut-il en déduire qu'il faut absolument arrêter de prendre l'avion? Si on part du principe que le but de la transition écologique, c'est de réduire les émissions le plus rapidement possible avec le moins de sacrifices pour la collectivité, il y a aussi une solution alternative qui consiste à dire que le but du jeu, ce n'est pas de comprimer tous les secteurs à n'importe quel prix, mais de réduire les émissions totales en commençant par les secteurs les plus faciles à décarboner.
Lesquels ?
L'électricité, typiquement. L'électricité, les mobilités terrestres, le bâtiment, le résidentiel,
l'agriculture
éventuellement. Et si vous décarbonez les secteurs les plus faciles à décarboner, vous offrez de fait un sursis, c'est-à-dire que vous élargissez le budget carbone des secteurs qui sont les plus difficiles à décarboner. Et en fait, en économie de l'environnement, il y a un instrument que personne ne connaît qui s'appelle le coût d'abattement. Le coût d'abattement, c'est une notion qui permet d'évaluer la rentabilité écologique et environnementale de telle ou telle mesure. Quand j'impose des quotas pour limiter l'avion, j'ai un coût d'abattement qui est disproportionné, qui est ultra élevé pour un effet marginal. Et donc, d'un point de vue global, il est beaucoup plus intelligent, me semble-t-il, de solliciter l'industrie de l'aviation en disant, voilà, votre secteur est difficile à décarboner. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous solliciter pour vous demander d'investir dans les secteurs les plus faciles à décarboner. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qui est dommage en France...
Il est d'accord, le secteur de l'aviation, pour le faire ?
Pardon ? C'est inexistant, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les mesures symboliques en France et complètement inefficaces reçoivent une attention qui est disproportionnée au détriment des instruments les plus abordables et efficaces, comme précisément le fait de se diriger là où les coûts d'abattement sont les plus faibles, c'est-à-dire la décarbonation, par exemple, des systèmes électriques dans les pays du Sud.
Des libertés.
Il y a toujours eu des atteintes aux libertés et il est tout à fait possible d'atteindre les libertés. On est quand même dans un monde qui s'est construit sur la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, la liberté d'aller et venir. Ce monde, maintenant, c'est celui dans lequel on vit et c'est celui dans lequel on vit avec toutes les conséquences qui sont positives mais qui sont également négatives. Donc pour inverser la donne, bien évidemment, il faut pouvoir les atteindre, ces libertés. Il faut bien savoir que la Déclaration des droits de l'homme, elle n'a jamais décidé qu'il n'y avait aucune limite à nos libertés. Notre liberté d'agir, elle s'arrête quand même, évidemment, à l'interdiction de nuire à autrui. Alors aujourd'hui, ce n'est plus autrui.
Donc,
aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est la planète. Donc on peut tout à fait décider...
C'est la vision d'autrui,
également. Mais attention, je vais quand même jusqu'au bout du raisonnement, parce que ce n'est pas si simple. Parce que tout de même, ces libertés, on ne peut pas non plus les atteindre de manière aussi facile. Et bien heureusement, d'ailleurs. On a un Conseil constitutionnel qui est là, et qui est là pour veiller à la proportionnalité des atteintes. À mon sens, même si l'idée est tout à fait intéressante, qu'elle pourrait être réaménagée, regardée de plus près, parce que, bon, là... Le flou règne, et le législateur n'aime pas le flou. À mon sens, il serait quand même difficile pour le Conseil constitutionnel de ne pas relever quand même peut-être une disproportionnalité au regard des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et peut-être irait-il nous dire aller voir ailleurs et aller taper là où ça fait plus mal. Donc voilà, il faut quand même trouver un équilibre dans ces atteintes aux libertés après. Bien évidemment, on a vu aussi d'autres expériences, comme la crise Covid. On a bien vu que pendant la crise Covid, la liberté d'aller et venir pouvait complètement être atteinte.
C'est pas rien comme...
C'est pas un débat, en fait, qu'on a. On a des limites physiques qu'il va falloir respecter. Donc, quand on pose, en fait, le débat sur un front moral, quand vous me dites, c'est pas avec moi qu'on débat, en fait, c'est vraiment avec comment on va faire pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, pour rester sous la barre des 2 degrés, parce que ce serait catastrophique de la dépasser, dans la mesure où, ensuite, on aurait tout un tas d'effets d'emballement, de bascule, etc. Et on rendrait, sur la trajectoire sur laquelle on est, à 4 degrés, en fait, la moitié du globe n'est plus habitable. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, je ne crois pas. Et donc, en fait, la proposition de Jean-Marc Jancovici, elle est intéressante aussi parce qu'elle permet justement de préserver ses libertés, de préserver la liberté de voler pour tous et toutes, pour plus tard. Donc, il y a aussi cette chose à avoir en tête. Et d'autre part, en fait, si on veut rationner, si on veut des quotas, peut-être que le fait de faire des quotas individuels n'est pas la
bonne solution. 4 vols, hein, là, le quota, c'est 4 vols dans une vie.
Voilà, dans une vie. On pourrait aussi imaginer de réguler le trafic aérien différemment, c'est-à-dire, par exemple, de fixer un quota par aéroport. Donc, c'est une proposition qui nous porte de baisser le trafic, de faire un plafonnement, comme on l'appelle, de nombre de vols sur les aéroports.
Alors, beaucoup plus long que ça. Je pense que la vraie question, c'est celle de la rentabilité, encore une fois, écologique et la proportion des mesures. Moi, je voudrais juste qu'on me dise aujourd'hui, tous ceux qui sont favorables à des quotas, quel est le coût d'abattement? Quel est le coût par tonne de CO2 de cette mesure? Ce coût-là est démentiel. Aujourd'hui, on sait, et c'est le GIEC qui nous dit, qu'une grande partie de la réduction des émissions sur le court terme est possible avec des mesures qui sont beaucoup moins contraignantes, beaucoup moins sacrificielles. Pourquoi on ne commence pas par là? Moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, le débat public en France, si vous voulez, il y a une attention qui est démesuré et qui est accordé aux mesures symboliques et inefficaces au détriment des solutions les plus efficaces et les plus abordables. Et je m'interroge sur les raisons de ce déséquilibre. Aujourd'hui, toute la littérature nous montre, par exemple, que là où les coûts d'abattement sont les plus faibles, c'est-à-dire là où le coût par tonne de CO2 sont les plus faibles, c'est investir dans la décarbonation des pays du Sud, notamment. Ça, pourquoi on n'en parle jamais? C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins contraignant, beaucoup plus rentable d'aider, par exemple, un pays comme l'Inde à remplacer ses centrales à charbon par des unités de production électrique bas carbone que de réduire de 10 km/h la vitesse sur les autoroutes ou que d'interdire aux Français de prendre l'avion. Pourquoi on ne commence pas par les mesures les plus faciles? Et ensuite, si et seulement si on voit que les mesures faciles ne suffisent pas, on peut envisager des mesures plus radicales. Mais le fait qu'on inverse sans cesse les priorités...
Charlène Fleury, c'est vrai qu'on...
baguette magique. Et par ailleurs, sur cette question, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas d'abord des pays du Sud? Mais en fait, le problème de cet argument-là, c'est qu'il nie le passif climatique, la dette climatique des pays du Nord.
Du Nord vis-à-vis du Sud.
Il trouve qu'effectivement, les pays du Nord ont en fait une dette climatique qui a été chiffrée, qui s'élève, enfin, ils sont responsables en fait de 92% du réchauffement au-delà de 350 ppm. Les pays du Nord, nous sommes responsables de
92%. C'est pour ça qu'il faut aider les pays du Sud. J'ai pas dit qu'il fallait les laisser se débrouiller.
Bien sûr, mais en l'occurrence, quand on parle de la Chine, par exemple, la Chine, à l'heure du calcul, n'avait pas encore dépassé sa part équitable. Elle est en train de le faire, là, voilà. L'Inde ne l'a pas dépassé. Et donc, en fait, certes, il faut aider ces pays-là, mais il faut faire tout en même temps. En fait, on n'a plus le temps de tergiverser et de dire « Ah, faisons ça plutôt que ça et ne restreignons pas nos libertés tant qu'on n'a pas tout essayé à côté.
Oui. » On a l'idée qu'effectivement, finalement, les jeunes auraient aussi un droit de voyager, alors que nous, on en a profité. Bon, déjà, il n'y a pas de droit de voyager. Il y a une liberté d'aller et venir, mais le droit de voyager, il n'existe pas. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il existe un autre mouvement, qui est celui de protection des générations futures. Donc là, on serait dans les générations futures qui revendiquent le droit de voyager, mais de l'autre côté, il y a quand même le droit des générations futures. Et ce droit qui est revendiqué, c'est plutôt les générations futures qui revendiquent le droit de vivre dans un climat stable, sur une planète habitable. Donc vous voyez, là encore, on est dans dans une recherche d'équilibre.
Ce serait une sorte de droit opposable qu'il pourrait avoir.
Alors, les générations futures, c'est un concept juridique. C'est un concept que reconnaît également d'ailleurs le Conseil constitutionnel et qui est de plus en plus revendiqué, brandi devant certains tribunaux. Les générations présentes, finalement, représentant l'avenir des générations futures. Et cet avenir, eh bien, il doit être aussi bien que celui...
Elles
on a pu profiter.
Je me répéter, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut lutter contre le changement climatique dans un cadre respectueux de la démocratie libérale, c'est-à-dire en minimisant les solutions répressives et en utilisant par tous les possibles les solutions technologiques. Je prends juste un exemple.
Le marché, alors.
Je prends juste un exemple historique. Est-ce que vous connaissez la période la plus rapide de réduction des émissions de CO2 en France? Historiquement, c'est la décennie 1977-1988. C'est à ce moment-là que les réacteurs nucléaires... Parce que c'est à ce moment-là que les réacteurs nucléaires français entrent en service et c'est à ce moment-là que nous connaissons la plus forte réduction d'émissions territoriales. Demeure en effet la question des émissions importées, mais là encore, si on veut réduire les émissions importées le plus rapidement, le plus efficacement possible et en infligeant le moins de sacrifices à la collectivité, l'enjeu c'est d'accélérer le déploiement des infrastructures bas carbone dans les pays émergents auprès de nos partenaires commerciaux, c'est-à-dire les aider, ne pas les laisser se débrouiller. Et je pense que ce serait une méthode à la fois beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace que le fait. C'est pas une question d'optimisme, c'est une question de pragmatisme. C'est-à-dire que si on dit aux gens qu'on va lutter contre le changement climatique en renonçant absolument à tout, je ne suis pas sûr que cela emporte l'adhésion populaire d'une part, mais d'autre part, je pense qu'en appauvrissant la collectivité, eh bien, on nuit à sa capacité à investir dans les solutions les plus efficaces et les plus rapides pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je constate que madame n'a pas répondu à mon argument sur la rentabilité écologique d'une telle mesure sur le coût d'abattement.
Mais j'aimerais bien le connaître.
Bien évidemment, en fait, tout est imaginable. On peut décider que l'individu fait son bilan carbone, qu'à partir de son bilan carbone, on lui offre des quotas pour toute sa vie. Ben voilà, toi, c'est tel vêtement, etc. Un crédit, mais finalement, vous voyez bien ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est le modèle. C'est le modèle chinois, c'est le crédit social, avec éventuellement des récompenses, et puis surtout, tout ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire la surveillance, le contrôle, et l'individu totalement numérisé, finalement.
C'est